Amis auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle émission Témoignages chrétiens, Marie avec vous. Aujourd'hui, un témoignage un peu particulier puisqu'il s'agit d'un témoignage local. Donc la personne qui témoigne s'appelle Margot. Elle nous dit « Je m'appelle Margot, j'ai bientôt 35 ans. Je suis mariée, mère de deux garçons de 11 ans et 5 ans. Mes garçons sont ma fierté et la source de mon bonheur. J'ai la chance d'avoir construit avec mon mari une famille unie et heureuse. Je n'ai pas toujours été heureuse dans ma vie. Je suis la dernière d'une famille de 3 enfants. J'ai une grande sœur et un grand frère qui est décédé dans un accident de voiture à l'âge de 17 ans, quand j'avais 6 ans. Nous vivions à cette époque à Saint-Antoine, près du couvent. Mon cocon familial a volé en éclats à partir de ce triste jour. Dans ma famille régnait la tristesse. Ma mère, quand j'étais avec elle, quand elle n'était pas hospitalisée, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Ma sœur tentait de s'en sortir avec sa petite fille de 1 an. Mon père n'a jamais été présent, même pas dans ces moments. J'ai grandi, tant bien que mal, dans la grande famille de ma mère, une semaine chez une tante, l'autre chez ma sœur, puis une autre tante, etc. Nous avons toujours été très unis. Nous nous retrouvions tous les week-ends avec mes grands-parents, pour qui il était important d'être ensemble. Mes plus lointains souvenirs concernant la foi remontent à mon enfance avec mes grands-parents. Je me souviens d'eux très pieux. Mon grand-père avait une grande dévotion pour Padre Pio et ma grand-mère pour la Vierge Marie. Je n'ai pas le souvenir qu'ils allaient à l'église. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Ils étaient très discrets et n'avaient pas beaucoup de relations extérieures car freinés aussi par la barrière de la langue. Ils étaient italiens et parlaient très peu français. Moi aussi, j'aimais prier, petite. Le soir, dans mon lit, je passais de longs moments à prier. Je m'imaginais Sainte Rita porter ma prière à Jésus. Pourquoi Sainte Rita? Je ne m'en souviens pas. Je ne me rappelle pas qui me l'a fait connaître, mais je sais que je l'aimais beaucoup. Je me sentais en sécurité quand je priais. Rien ne pouvait m'arriver de mal. Je me bâtissais une muraille avec mes prières. J'allais au couvent de Saint-Antoine suivre des cours de catéchisme. Je me rappelle une année avoir participé à la crèche vivante. Puis, quand mon frère est décédé accidentellement dans un accident de voiture avec mon cousin, tout a changé. Je me disais, si un bon Dieu existe, il ne peut pas me laisser souffrir ainsi. Il ne peut pas laisser ma famille se briser sans intervenir, laisser une mère pleurer son fils et toutes les personnes autour de moi qui souffrent. C'est ainsi que j'ai grandi, en abandonnant complètement mes croyances. Je me disais que les croyants étaient des faibles qui ne veulent pas affronter la réalité de la vie. La religion était pour moi une vieille relique du passé, vouée à disparaître. À 21 ans, écorchée vive, j'ai connu mon mari. Son mode de vie sain, à l'opposé du mien, sa vie équilibrée sur tous les plans, me faisait me sentir bien et heureuse avec lui. Je ne demandais qu'à partager sa vie belle et simple. Nous étions heureux ensemble. À 23 ans, quand j'attendais mon premier enfant, nous cherchions un logement plus grand pour accueillir notre enfant. Nous avons préparé différents dossiers pour avoir un logement social. Très rapidement, un appartement nous a été attribué. Le logement se trouvait au-dessus du couvent Saint-Antoine. Sacrée coïncidence. J'avais de ma terrasse la vue sur l'appartement où je vivais petite et sur le couvent. Je me souviens que je regardais les religieux et les fidèles en me demandant ce que pouvaient ressentir toutes ces personnes. C'était tellement incompréhensible pour moi. C'était le néant. Je ne ressentais plus rien. Puis, quand mon fils est né, quand j'ai connu le bonheur de donner la vie à ce petit être, ma vie avait enfin un sens. Une petite étincelle a ressurgi en moi. Je me disais que quand même, il y avait forcément une intervention divine pour créer la beauté du monde qui nous entoure, le miracle de porter et donner la vie. La nature. Mon regard changeait. Je me posais beaucoup de questions. comment peuvent cohabiter de telles merveilles dans ce monde et de telles souffrances ? Sur ma terrasse, avec mon bébé dans les bras, cette fois-ci en période de Pâques, les chants des religieux et des fidèles étaient devenus familiers. Mon fils avait l'air de les apprécier et je devais avouer que de le voir s'apaiser me faisait écouter plus attentivement les chants et le déroulement du chemin de croix. Mon mari, lui, croit depuis toujours sans être pratiquant. Lui non plus n'a pas eu d'éducation religieuse, mais il a la foi. C'est donc naturellement que nous avons fait baptiser notre fils. Nous avons eu un deuxième enfant 5 ans plus tard et lors de son baptême, nous avons décidé de nous marier. Mon deuxième fils, en grandissant, a toujours demandé à s'arrêter dans les églises. Je le voyais émerveillé devant les statues des saints. Il me rappelait, moi, petite. Mais je craignais aussi qu'il soit déçu comme je l'avais été. J'avais moi aussi enfant cru tellement fort. Je pensais être protégée. Je pensais que rien ne pouvait m'arriver. Et pourtant, le malheur s'était abattu dans ma famille. Je ne voulais tout de même pas m'opposer à ses envies de rentrer dans les églises. J'y allais avec lui et nous allumions une bougie. Un jour, en rentrant dans une église en ville, à Bastia, une dame priait au premier rang. Mon fils m'a demandé ce qu'elle faisait. Je lui ai donc expliqué qu'elle priait, qu'elle parlait à Dieu. Mon fils m'a tout de suite dit qu'il voulait prier lui aussi. Alors je lui ai dit que je lui apprendrais 2 prières que je faisais quand j'étais petite, le Notre Père et l'Ave Marie. Voilà donc comment je peux résumer ma foi jusqu'à ce qu'un événement vienne tout changer. Je croyais, oui, au fond de moi, quelque chose, il y avait certainement, mais ça me paraissait tellement loin. J'allais à l'église très rarement, le plus possible avec mon fils qui me tirait dans toutes les églises devant lesquelles nous passions, mais je ne priais quasiment pas. J'avais tout pour être heureuse, un bon travail, heureuse en ménage, 2 beaux enfants en bonne santé, mais il y avait toujours un vide en moi qui persistait, toujours cette impression de n'être pas à ma place, puis des angoisses qui apparaissaient jusqu'à devenir quasi permanentes, liées, me disait-on, à mon vécu, à mon enfance. Un jour, lors d'un de mes forts épisodes d'angoisse et d'anxiété, où j'en arrivais à ne plus pouvoir supporter d'être dehors dans la foule, je me suis arrêtée dans un magasin. J'en suis vite ressortie car la crise d'angoisse arrivait à la vue du monde à l'intérieur. Je suis vite partie sur le parking en direction de ma voiture. Et là, devant ma voiture, côté conducteur, posée par terre, il y avait une belle médaille de Sainte Rita. Il n'y avait personne autour de moi et pas de voiture garée à proximité. J'ai donc pris la médaille avec moi et j'ai ressenti une sensation très étrange, comme si quelque chose allait se passer. Dans ma voiture, j'ai attendu pour me calmer, reprendre mon souffle à nouveau pour pouvoir conduire. Je regardais la médaille et j'ai dit à haute voix « Sainte Rita, si mon cas n'est pas trop désespéré pour toi, aide-moi à me libérer de mes angoisses. » Quelques jours plus tard, le 5 janvier 2022, une de mes tantes est décédée subitement à l'âge de 60 ans d'un arrêt cardiaque. Ma tante était malade, fragile psychologiquement. Elle vivait dans le quartier de Saint-Antoine, près du couvent. Elle faisait l'aumône et donnait son entière pension à ses 2 enfants. Elle restait sans aucune ressource financière. Même si je ne comprenais pas son mode de vie et ses choix, ma tante était importante pour moi, je l'aimais beaucoup. Du fait qu'elle était souvent au couvent de Saint-Antoine, ce sont les frères capucins qui sont venus célébrer ses obsèques. C'est ce jour-là où vraiment je peux dire que ma vie spirituelle a changé. Ce jour-là, j'ai vécu cette messe et compris pour la première fois de ma vie, à 33 ans, le sacrifice de Jésus pour nous. Le prêtre, accompagné de plusieurs fidèles de Saint-Antoine et d'une femme qui jouait divinement bien de la guitare, ont commencé à chanter. Et tout de suite, dès les premiers mots du prêtre, en parallèle avec ma tristesse pour ma tante, je ressens la présence de notre Seigneur ce jour-là, au plus profond de moi. suis envahie d'un amour immense et indescriptible encore aujourd'hui. J'ai du mal à mettre des mots. Je ressentais sa présence miséricordieuse. Je n'ai rien entendu avec mes oreilles ou vu de mes yeux. Mais le Seigneur était là, ce jour, à côté du prêtre, dans ses paroles, dans l'Eucharistie. Le message que je ressentais dans mon cœur était clair. « Tu es pécheresse, tu es loin de moi, mais je te pardonne. Maintenant, je sais, tu sais que je suis bien là, près de toi, tu n'es pas seule. » Les émotions se mélangeaient, la tristesse m'envahissait. Je demandais pardon, car je réalisais durant toute cette messe que Dieu Tout-Puissant, Créateur du monde, s'était abaissé jusqu'à devenir un petit enfant fragile, né dans la paille parmi les animaux. Nous a rejoints dans nos limites, dans nos douleurs, puis est allé jusqu'à la croix pour moi, pour nous tous. Grâce à lui, nous sommes sauvés. Et personne de ma famille, à ce moment-là, dans cette église, n'avait l'air de le comprendre. En tout cas, pas comme moi je le comprenais. Dès la fin de la messe, j'ai dit à mon mari que je devenais peut-être folle, car j'avais ressenti tout cela aujourd'hui, pendant cette messe d'enterrement. Dieu n'était pas lointain, il était bien là, présent, il me connaissait. Et moi, je le découvrais. Tout était clair pour moi. Je m'en voulais énormément de ne pas être proche de lui. Mon mari m'a dit que ma tante avait eu une messe merveilleuse et qu'il avait été vraiment touché lui aussi, et que certainement, dans la douleur de lui dire au revoir, j'avais senti le réconfort de Dieu. J'étais tellement choquée de tout cela, je demandais à quelques membres de ma famille s'ils savaient ce que Jésus avait fait par amour pour nous et combien il nous aime. Tous m'ont répondu oui, en me disant les grands moments de la vie de Jésus, combien il avait souffert, etc. Un peu comme on raconte une histoire légendaire. Je répondais toujours la même chose. Comment pouvez-vous savoir tout ce que vous me racontez et continuer de vivre sans lui dans vos vies ? Tout a changé pour moi depuis ce jour-là. Comment pouvais-je continuer ma vie comme si de rien n'était, après avoir ressenti si fortement cette présence, cet amour pour moi ? Que devais-je faire ? Ignorer ce qui s'était passé et continuer ma vie comme avant ? Ou rechercher à la source Dieu qui était venu frapper à la porte de mon cœur ? Le choix était vite fait. 3 jours après, j'étais sur le dernier banc de l'église à Saint-Antoine à écouter la messe. Plus j'y allais, plus j'écoutais, plus je me rendais compte que je ne connaissais vraiment rien sur la vie de Jésus. J'avais tout à apprendre. Chaque liturgie, chaque homélie que j'écoutais faisait écho à ma propre vie personnelle. J'ai découvert aussi la prière du chapelet. Prier notre Sainte Mère en présence du Seigneur, elle qui nous conduit afin que nous puissions rencontrer sa présence, m'ont tellement apporté. Mon cœur et mon esprit blessés cicatrisaient peu à peu. Quelque temps plus tard, au mois de mai, je suis allée voir le Père Amédéo à la fin d'une messe pour demander pour la première fois le sacrement de la réconciliation dont j'avais pris l'importance durant une messe. C'est lui qui avait célébré l'enterrement de ma tante. Je lui ai raconté mon histoire et depuis, il m'aide beaucoup dans ma conversion. Lors de cette première confession, il m'a dit que la médaille que j'avais trouvée était un beau signe, que ce n'était pas anodin. Il m'a dit aussi qu'un jour, ce serait bien que j'aille à Cascia, à la basilique de Sainte Rita. Le soir même, j'ai reçu un texto de ma sœur qui disait « On part en Italie cet été ?» J'ai répondu « Oui, tu ne vois pas d'inconvénient à passer une journée à Cascia ?» La veille de mon départ pour l'Italie, à la fin de la messe, je discutais un peu avec des fidèles devant l'église. J'expliquais mon voyage et les villes que j'allais visiter. Et Nicole, la femme qui avait joué de la guitare lors de l'enterrement de ma tante, prend part à la conversation et me propose qu'à la rentrée en septembre, on se rend compte pour qu'elle me parle de l'ordre franciscain séculier. Je ne sais même pas ce que c'est à ce moment-là, mais je lui dis que oui, on se verra volontiers pour en parler. Nous sommes donc partis en famille à Rome, puis à la basilique de Sainte Rita. En préparant notre voyage, j'ai vu que pas très loin de Cascia se trouve la ville d'Assise. Nous avons donc décidé de nous y rendre aussi après notre passage à Cascia. C'était un bon moyen pour moi d'en apprendre un peu plus sur Saint François, que je connaissais si peu. Durant notre journée à Cascia, nous avons visité le monastère où la sainte vivait et un religieux nous a raconté les grands moments de sa vie. J'ai appris que sa mère portait le même nom de famille que moi. Quand je suis rentrée dans la basilique, c'était troublant. Au-delà de la beauté de la basilique et de l'atmosphère de paix qui y règne, la sainte semblait tellement être remplie de grâce et de plénitude. J'aurais pu rester prier près d'elle des heures. Il y avait la messe et la procession du 15 août ce jour-là. Dans mes prières, durant ce cœur à cœur intense avec elle, je lui ai demandé de me montrer le chemin, qu'elle me donne un signe, comme j'avais eu pour la médaille, pour que je comprenne la direction que je dois prendre dans ma vie spirituelle, car je sentais au fond de moi qu'il fallait encore faire plus, comme si on m'attendait quelque part. La nuit même, j'ai fait un rêve très étrange. J'ai rêvé que j'étais dans une ruine en pierre. Le sol était en pierre. Il y avait un mendiant assis par terre qui portait une vieille tunique grise. Il s'est levé, m'a montré une ouverture sur le mur en pierre d'où sortait une lumière et il m'a dit « Laisse-moi te montrer l'amour de Dieu pour toi et le monde entier. » Et là, en regardant cette lumière, j'ai ressenti un amour qui m'enveloppait, un amour divin qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas explicable humainement, un amour pur, sans tache, vrai. Je baignais dans cette lumière d'amour, plus rien n'avait d'importance. Le mendiant, à côté de moi, me dit que ce que je ressens est à l'échelle humaine et que Dieu aime bien plus que cela. Je lui dis que je voudrais rester devant cette lumière, ressentir cet amour et y rester pour toujours. Il me répond que non, car sinon je quitterais la terre. Et je me suis réveillée le cœur battant. Je n'ai pas trop donné d'importance à ce mendiant dans mon rêve, tellement que cette source d'amour ressentie m'avait troublée. Mais le lendemain, quand je me suis rendue à Assise, dans la basilique de Saint-François, que j'ai vu sa tunique exposée, je l'ai reconnue, c'était celle du mendiant de mon rêve. J'ai donc découvert la vie de Saint-François, la spiritualité franciscaine. Saint-François, l'Alter Christus, se faisant pauvre, dernier parmi les derniers, proche du peuple, aidant les plus petits et malades d'entre nous, me touche particulièrement. À mon échelle, moi aussi, je voulais, comme lui, renaître dans une vie vraiment nouvelle. En vivant l'Évangile à la manière de saint François, j'aborde désormais des situations de ma vie personnelle différemment. Je ne sais toujours pas interpréter ce rêve, mais ce qui est certain, c'est que cet amour ressenti, je ne l'oublierai jamais. Je voudrais toujours suivre le Christ, marcher à sa suite, car il n'enlève rien et donne tout. En se donnant à lui, nous recevons au centuple et nous trouvons la vraie vie. Je ressens depuis le besoin d'aller à la messe pour me confier, lui confier une semaine qui arrive. Près de lui, je dépose toute ma vie. Je sais que je ne suis pas seule. Il m'aide et me guide. Écouter la parole, écouter le Christ nous parler dans l'Évangile et vivre avec les cadeaux qu'il nous a laissés, comme le recevoir dans l'Eucharistie pour que sa vie vienne en nous, l'adoration pour vivre ce cœur à cœur avec lui et le glorifier pour tous ses bienfaits sont devenus l'essence de ma vie spirituelle. Avoir mis le Christ au centre de ma vie l'a changé. Je peux dire aujourd'hui que je suis heureuse, que rien ne me manque. Je ne ressens plus de vide dans ma vie. Je n'ai plus d'angoisse. Et je sais qu'enfin je suis où je dois être. Je suis à ma place. Bien sûr, je vis des situations difficiles comme tous, mais aujourd'hui, je les vis avec le Christ. Je le sens m'épauler, m'aider à faire face. Avoir le Christ n'annule pas le désert, mais garantit sa présence au milieu des épreuves. En écrivant mon histoire, je fais aussi le bilan. Aujourd'hui, je suis en chemin vers le tiers ordre franciscain. Je vais recevoir en juillet le sacrement de la confirmation. Je témoigne aujourd'hui pour toutes les personnes qui se sentent seules et loin de Dieu. Nous avons tous des blessures dans nos âmes qui sont le résultat de notre condition déchue. Elles sont le résultat d'un monde brisé dans lequel nous sommes nés, infligés par nos péchés et les péchés des autres. Souvent, ceux-ci sont profondément enterrés, mais ils affectent bien nos choix quotidiens et notre état émotionnel, souvent de manière inconsciente. Pour guérir ces blessures, nous avons besoin de rencontrer Jésus. Lui seul peut restaurer nos âmes et nous donner la plénitude dont nous avons désespérément besoin. Jésus veut une relation avec chacun de nous. Alors commençons cette relation aujourd'hui. Allons le chercher sincèrement, maintenant, et il répondra à notre appel. Amis auditeurs, merci, nous remercions Margot pour ce beau témoignage et nous vous disons à bientôt pour un nouveau témoignage dans notre prochaine émission.
Parlait aux poissons, leur chantait des chansons, il comptait aux oiseaux les bienfaits du Très-Haut, il louait le soleil et toutes ses merveilles, il n'avait pour habit qu'un affreux tissu gris. Voyageait souvent pieds nus et sans argent, vivait dans la misère François le petit frère. Aimait les misérables, les avait à sa table, pardonnait aux voleurs, avait un si grand cœur. Son oiseau préféré, l'alouette qui chantait, louait tous les matins Seigneur pour Seigneur. Aimer les plantes, les fleurs, combler tous les bonheurs, les pauvres étaient le père François le petit frère.
Un beau jour en chemin, très bien vêtu et sain, il rencontre un lépreux et n'est pas très heureux, mais combat dans
ses sermons tellement grands touchaient le cœur des gens. Tout ce qui lui restait, jamais ne le gardait. Il aimait la nature, de Dieu la créature. Sa joie croissait toujours, et la nuit et le jour. Bénis donc notre terre, François le Père.